Bonjour à tous et bienvenue sur Microsciences. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler du plancton.
Je peux en placer une ? Même pas de blague. C'est la rentrée, Jyoti, vous pourriez faire un effort.
Justement, c'est la rentrée, les gens n'ont pas que ça à faire, Marion. Donc on entre directement dans le vif du sujet. Le plancton, c'est petit, il y en a plein dans l'océan, les baleines en mangent, mais la science dans tout ça.
Pour être un peu plus précis que ça, Jyoti, il n'y en a pas que dans l'océan. Étymologiquement, le mot plancton vient de planktos, qui signifie errer, dériver, en grec ancien. Le plancton englobe donc tous les organismes inaptes à lutter contre le courant, qu'ils soient microscopiques, invisibles à l'œil nu, ou de quelques centimètres.
Effectivement, le terme plancton est général. Il comprend de nombreuses espèces différentes que l'on peut classer dans plusieurs groupes selon leurs caractéristiques. On en distingue quatre. Les deux plus connus sont le zooplancton, dit animal, et le phytoplancton, dit végétal. Mais il compte également des bactéries et des virus.
Dites-moi, Jyoti, quand vous croisez un animal dans la rue, comment faites-vous pour réellement savoir que c'est un animal ?
Bah, ça marche, ça a des poils.
Ou pas ?
Ou des écailles.
Dans la rue, ça m'étonnerait.
Oui, enfin, c'est un animal, ça se voit.
Donc c'est plutôt des caractères morphologiques qui vous permettent de définir si l'espèce est animale ou végétale ?
Ah, je vois où vous voulez en venir. Avec le plancton, ce n'est pas si simple. Comme il y a un panel d'espèces présentant de nombreuses formes différentes et inhabituelles, qui ne ressemblent ni à un arbre, ni à un chat, c'est assez difficile de dire en un simple regard qu'il s'agit d'un animal ou d'un végétal. En fait, ça va plus loin que ça. Ce qui détermine auquel de ces deux groupes appartient une espèce planctonique, ce n'est pas son aspect, mais plutôt la façon dont elle va trouver son énergie. Vous allez bien, Marion ?
Oui, oui, c'est juste que je ne sais pas ce qu'il vous arrive, Jyoti, je n'ai pas l'habitude de vous voir aussi sérieux. Effectivement, on distingue les organismes autotrophes et les organismes hétérotrophes. Je m'explique. Pour que vos cellules puissent se renouveler, pour que vous puissiez vous déplacer, il vous faut de l'énergie, Jyoti. C'est pour cela, outre votre gourmandise, que vous avez besoin de vous nourrir. Eh bien, le plancton aussi. Et on le classe selon la manière dont il se nourrit. Dans le zooplancton, on va trouver des prédateurs, des parasites, des organismes qui ont besoin de matière organique pour créer leur énergie. On dit qu'ils sont hétérotrophes. Chez le phytoplancton, les organismes produisent leur énergie à partir de la lumière du soleil et du dioxyde de carbone, de la matière inorganique. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Ce sont des autotrophes. Ça va, Jyoti ?
Ça va, c'est juste que je viens de réaliser qu'en fait, je suis hétérotrophe.
Bah, à moins que vous fassiez de la photosynthèse, oui.
Je fais un peu de photo, mais c'est tout.
Ah ouais. Je me disais bien aussi que votre sérieux ne durerait pas bien longtemps.
Détrompez-vous. Pour mieux comprendre l'importance du plancton, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, il produit 50% de l'oxygène de la planète. Ensuite, il contribue à la régulation du taux de CO2 dans l'atmosphère en absorbant d'importantes quantités, ce qui rend l'air respirable. Il représente également 98% de la biomasse océanique. Si vous imaginez une balance géante dans laquelle on mettrait tout le plancton face à tous les autres organismes marins...
Même les baleines,
c'est le plancton qui pèserait le plus lourd. Enfin, le plancton est à la base de la chaîne alimentaire. Pas de plancton, pas de poisson.
D'où l'intérêt d'étudier attentivement ces espèces. D'ailleurs, les chercheurs découvrent de jour en jour la diversité du plancton, grâce aux échantillonnages. Entre 2009 et 2013, l'expédition Tara Océan a réalisé 35 000 prélèvements, dont 25 000 morphologiques et 10 000 génétiques. Leurs premiers résultats semblent satisfaisants, puisque 40 millions de gènes microbiens ont été analysés, ainsi qu'un milliard de codes-barres génétiques d'eucaryotes qui ont pu être séquencés. Pour faire simple, les eucaryotes sont les organismes dotés de cellules avec noyaux. Comme vous, Jyoti.
Non, moi je suis déjà hétérotrophe, ça suffit.
Bref, après analyse, les chercheurs pourront notamment cartographier la répartition du plancton dans l'océan, les interactions entre ces micro-organismes et celles qu'ils entretiennent avec leur environnement. En plus de mieux comprendre la dynamique et la structure de l'écosystème, ces nouvelles données devraient permettre aux scientifiques d'évaluer l'impact du changement climatique sur le plancton, mais aussi sur l'écosystème. Mais l'étude du plancton ne s'arrête pas là, car le phytoplancton semble présenter un intérêt majeur en matière de production de biocarburants. Peut-être qu'un jour, vous mettrez du plancton dans le réservoir de votre scooter, Jyoti.
Il roulerait peut-être mieux. Mais d'ici là, j'aurai construit mon vaisseau spatial, le Jyoti Millennium.
Mais bien sûr.
Vous avez quelque chose à rajouter, Marion ?
Non, non.
Tant mieux, parce que cette émission touche à sa fin.
Vous êtes sûr ? Parce que j'ai encore plein de choses à raconter, moi, sur le plancton.
Oui, oui, mais on a dit qu'on allait faire plusieurs émissions à ce sujet, pour approfondir les notions que nous avons abordées aujourd'hui. Et puis je vous rappelle que c'est la rentrée, les gens n'ont pas que ça à faire. Alors merci à tous d'avoir suivi Microsciences, et à très bientôt.
Mais...
Bon, ça suffit, Marion. Rentrez chez vous.